voilà, ce soir, je voudrais que nous retournions encore dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1er. Et je vais revenir tout simplement sur le verset 17, dans l'idée d'un examen plus approfondi, des choses extraordinaires qui sont écrites là et pour lesquelles nous avons besoin de méditer et de nous laisser encore toucher dans notre cœur par le Saint-Esprit. Mais je vais prendre à partir du verset 15, chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens, verset 15, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage au milieu des saints, qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. » Voir les choses que les autres ne voient pas ou les voir avant les autres donne une autre perspective sur la vie et donne aussi un réel avantage sur les autres. À la manière du serviteur d'Élisée à Dothan, vous connaissez le passage, la ville est encerclée par les armées du roi de Syrie, Élisée et son serviteur sont sur les murailles. Son serviteur s'inquiète, l'armée est là, mais Élisée était dans la paix parce qu'il voyait la gloire de Dieu. Alors il a demandé au Seigneur d'ouvrir les yeux de son serviteur qui vit aussi la ville entourée de l'armée des anges et Dieu était avec eux. Alors à la manière du serviteur d'Élisée à Dothan, qui ouvrit les yeux sur l'armée céleste, Dieu veut nous donner une nouvelle vision spirituelle. Afin que nous contemplions sa gloire et sa force, mais que nous découvrions aussi ce qu'il tient en réserve pour nous dans les cieux. Cela dans le but que nous changions ce monde avec les choses qu'il a préparées d'avance pour nous. Et pour cela, nous avons besoin que cette prière de l'apôtre Paul devienne active dans nos vies, nous avons besoin d'un esprit de révélation. Révélation, dans ce verset 17, c'est le mot qui a donné Apocalypse. Il veut dire lever le voile sur quelque chose de caché. Et pour faire un peu une synthèse de plusieurs messages que j'ai partagés avec vous ces dernières semaines, et j'y vois là une convergence de Dieu, encore une fois, rappelons-nous que Dieu a caché des choses qui sont nouvelles et qui sont donc inconnues. Et ces choses, il veut les révéler aux siens, parce qu'il les a cachées pour que nous puissions les découvrir en Jésus-Christ. Amen. Alors l'église d'Éphèse était à l'époque de Paul l'une des églises les plus en vue, si l'on peut dire. S'y était déroulé le réveil le plus puissant dans tout le monde païen depuis l'époque de Jonas et de Ninive. Rappelez-vous le réveil d'Éphèse dans Actes 19, qui a vu des miracles extraordinaires, est-il écrit, au point qu'on amenait des linges qui avaient touché les malades pour que Paul prie et les malades étaient guéris. Il y avait aussi on avait brûlé des livres de sorcellerie, enfin des choses extraordinaires s'étaient produites dans cette ville. Et l'épître que Paul écrit à cette église est aussi la seule qui ne contienne aucune parole de correction dans toutes les épîtres qu'il a écrites. Donc on peut s'imaginer la qualité de cette assemblée. Au contraire, les enseignements qu'il lui communique sont du plus haut niveau spirituel. Il est question dans cette épître d'une révélation de la nature et de la fonction de l'Église, des cinq ministères dons de la parole, de la relation entre le mari et l'épouse comparée à Christ et l'Église. Une révélation aussi du combat spirituel. Donc, une épître très importante. Une église, donc, de qualité, Malgré tout, Paul pria pour les croyants de l'église d'Éphèse. Et il demanda spécifiquement au Seigneur de leur donner de la connaissance au sujet des choses célestes, des bénédictions célestes qui sont en Jésus-Christ. Et pour cela, pour qu'ils acquièrent cette connaissance, ils demandent à Dieu de leur donner un esprit, un, pas deux, nous l'avons vu la semaine dernière, mais un esprit de révélation pour voir ce qui est invisible et de sagesse pour comprendre ce que nous devons faire avec ce que nous commençons de voir. Et cette prière de Paul n'était pas simplement pour ces chrétiens d'il y a 2000 ans en arrière. C'est une prière apostolique, inspirée par le Saint-Esprit, qui impacte l'Église aujourd'hui encore. Paul n'a pas prié simplement pour les Éphésiens, il a prié pour nous. Il a prié pour toi, il a prié pour moi. Cette prière nous concerne et nous voulons en être au bénéfice. Arrêtons-nous encore un instant sur la raison même de la prière de Paul. Pourquoi donc Paul va-t-il demander à Dieu ces choses? Tout d'abord, regardons encore une fois les versets 3 à 14. Paul commence par les Éphésiens et nous, chrétiens d'aujourd'hui, par les nous enseigner au sujet des choses extraordinaires que Dieu tient en réserve pour nous dans les cieux. Et ça peut être résumé par le verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ, de toutes sortes de bénédictions. » Et notez encore une fois, s'il vous plaît, le passé passif nous a bénis. Ce qui veut dire que nous sommes déjà bénis. Les bénédictions divines sont déjà à nous. Pourtant, juste après ce passage magistral, Paul se tourne vers Dieu. Et voilà que maintenant, il prie pour eux et pour nous, afin que nous ayons de la connaissance au sujet de ce qu'il vient d'écrire. Donc, il vient de leur décrire les choses qui sont dans les cieux, il vient de leur donner un enseignement extraordinaire, il vient de leur donner la parole, la doctrine, et puis il se tourne vers Dieu en lui disant « Maintenant, donne-leur de la connaissance. » Qu'est-ce que nous devons comprendre de ça? C'est qu'à un certain point, il estimait donc que l'enseignement qui leur prodiguait, inspiré par le Saint-Esprit, n'était pas une fin en soi. Il fallait quelque chose de plus. Il fallait le souffle de l'Esprit-Saint pour activer cet enseignement. Nous devons comprendre que rien n'est automatique dans la vie chrétienne. Il ne suffit pas de dire « Ah, c'est écrit, regardez, c'est écrit. » Alors, voilà les promesses de Dieu. Et voilà ces promesses qui sont pour ma vie, pour ma famille, pour mon église, pour mon pays. Oui, c'est écrit. Maintenant, pour vivre ces bénédictions, il faut aller les chercher personnellement. Il faut qu'elles prennent vie en nous, à travers la prière, la foi, la méditation, par un esprit de sagesse ou de révélation, jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous donne connaissance personnellement de ce qu'il tient effectivement en réserve pour nous. Pour aller plus loin, plus haut, plus fort dans les choses célestes, cachées, inconnues et nouvelles du royaume de Dieu, nous avons besoin que le Saint-Esprit ouvre notre cœur, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Lire la parole de Dieu doit exciter notre foi, nous révèle ce que Dieu tient en réserve. Mais pour que cette parole devienne active en nous, il faut donc qu'elle devienne connaissance personnelle. Il faut que le Saint-Esprit l'embrase. La parole, le logos, c'est le matériel que le Saint-Esprit va embraser. Mais j'ai besoin que le Saint-Esprit l'embrase. Parce que tant que le feu du Saint-Esprit ne vient pas, il se pourrait bien que cette parole ne reste que parole écrite. Mais elle doit devenir vie en mon cœur. Et ça ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Et alors, en réponse à la prière de Paul, nous-mêmes, nous pouvons avoir cette prière en disant « Seigneur, je désire que ce qui est écrit devienne réalité dans ma vie, selon la part que tu as spécialement préparée et réservée pour moi dans les cieux. » Et de dire à la suite de Paul, « Mais Seigneur, j'ai besoin d'un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Je veux, Seigneur, que tu me donnes de comprendre ce qui est écrit. » Et je le dis pour moi, le premier, face à tous les défis de notre Église, face aux aspirations de ma vie, j'ai besoin d'un tel esprit pour trouver les solutions divines. Mais cela est vrai aussi pour chacun d'entre nous, face au challenge de ton appel, face au désir que tu portes de voir le monde être transformé, face à tes aspirations pour ta vie, à ta famille, tu as toi aussi besoin d'un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance des choses que Dieu a préparées pour toi. Alors pourquoi avons-nous besoin de révélation? Le pasteur Bill Johnson a écrit « Ce que je sais m'aidera ». Et ce que je pense savoir me blessera. Ce que je sais m'aidera, mais ce que je pense savoir me blessera. Et c'est l'esprit de révélation qui m'aide à faire la différence entre ce que je sais et ce que je pense savoir. Et cette différence entre ce que je sais et ce que je pense savoir, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Nous avons besoin de connaissance. Afin de prendre les bonnes orientations, les bonnes décisions, afin d'exercer la foi comme il convient. Car sans connaissance, nous sommes sans force et en situation de grand danger. Les prophètes nous ont avertis, on connaît bien Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Selon les versions, Ésaïe 5, 13, peut se lire ainsi, c'est pourquoi mon peuple sera déporté faute de connaissance. Par faute de connaissance, mon peuple sera déporté en exil. Alors la connaissance à laquelle nous devons aspirer n'est pas une connaissance théorique. Si cela suffisait, Paul n'aurait pas prié puisqu'il venait d'enseigner les Éphésiens. Il venait de leur enseigner la doctrine. Il n'avait qu'à lire Éphésiens 3, chapitre 1, verset 3 à 14, et pour comprendre quelle était la doctrine, qu'est-ce que Dieu voulait faire. Pourtant, il pria parce qu'il était nécessaire qu'ils aient, que nous ayons une autre qualité de connaissance. Et cette connaissance n'a pas pour but de nous rendre plus intelligents. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1, l'apôtre nous met en garde contre la recherche de la connaissance sans amour. Et il dit que cette connaissance-là ne fait qu'enfler l'orgueil de ceux qui la poursuivent. La qualité de connaissance que Dieu souhaite nous communiquer a pour but de nous communiquer une imprégnation. Dieu veut nous imprégner de sa parole. Il veut comme personnaliser cette connaissance. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit doit souffler sur sa parole pour la rendre vivante. Dans un langage d'aujourd'hui, on va dire pour la rendre active, pour la rendre opérante, énergique. Je pense au mot que l'on trouve régulièrement sous la plume de l'apôtre Paul, energemata, pour la rendre énergique. C'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit va rendre puissante la parole du Seigneur dans notre vie. Et cette connaissance ne peut donc être que le fruit d'une rencontre transformatrice. Peu importe le déroulement de cette rencontre avec le Saint-Esprit, pour certains ça peut être très puissant, pour d'autres ça peut être très paisible. Mais chaque fois que nous rencontrons le Saint-Esprit dans ce genre de moment où il nous communique sa connaissance, cela laisse en nous une marque indélébile. Le Saint-Esprit a ouvert nos cœurs, il a élargi notre intelligence, il a illuminé nos yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Son royaume est venu vers nous. Son royaume est entré en nous. C'était alors le temps d'une fraîche et glorieuse révélation des choses que Dieu tient en réserve pour nous. Et la conséquence d'une telle rencontre, c'est que Dieu, à ce moment-là, étend notre compréhension des mécanismes célestes. Nous ne regardons plus les choses d'après les yeux de la chair, mais nous les voyons d'après les yeux spirituels. Et nous commençons à voir comment Dieu agit, comment Dieu conçoit les choses, ce que Dieu a préparé. Il augmente, Dieu étend alors notre champ de vision. Il nous montre là ce qui est là-haut. Et en même temps, il étend notre champ d'action dans la foi. Ma compréhension, ma vision et ma foi pour agir. Voilà les conséquences d'une rencontre transformatrice avec le Saint-Esprit qui nous communique de la réelle connaissance. On pourrait avoir la connaissance de toutes les Écritures, de tous les prophètes, de tous les apôtres, la connaissance de toutes les doctrines. Mais si elle n'est pas activée par le Saint-Esprit, elle restera stérile. Nous avons besoin que l'Esprit nous donne la véritable connaissance qui vient du cœur de Dieu. Et donc nous avons un besoin impératif de révélation dans sa connaissance. Non pas la connaissance des théologiens, non pas la connaissance des prédicateurs, non pas la connaissance de telle ou telle église, mais la connaissance de Dieu, celle qui concerne Jésus-Christ et celle qu'il veut lui nous communiquer. Nous connaissons aussi Proverbe 29, 18, qui dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt, il est sans frein, il est abandonné », suivant les différentes traductions. Alors encore une fois, nous pouvons nous présenter comme les gardiens de l'orthodoxie biblique, des doctrines bibliques, mais sans esprit de révélation dans sa connaissance, nous périrons. Nous avons besoin d'une connaissance vivante. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul utilise un mot très particulier ici, il parle de l'épignosis, la toute connaissance, et pas simplement la connaissance. Parlons maintenant du champ de la révélation. Si vous voulez avec moi aller dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 25, et on retourne à la source, on retourne à Jésus, on retourne à l'évangile. Matthieu 11, 25. Et le Seigneur a une parole extraordinaire. Je pense que ce soir, elle peut prendre une autre dimension aussi. Voilà ce qu'il dit. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Jésus est donc prêt à lever le voile sur des choses cachées, inconnues, nouvelles et grandes. Il est prêt à lever le voile pour ceux qui ont un cœur semblable à celui des enfants. Aux enfants, les révélations célestes. Aux enfants, la révélation des choses que Dieu tient en réserve pour eux dans les cieux. Par contre, il cache, et c'est une action volontaire, ces mêmes choses aux adultes, entre guillemets, et particulièrement à ceux qui pensent savoir connaître et avoir de l'intelligence. C'est-à-dire à ceux qui se confient et agissent selon un savoir, selon leur intelligence. Et l'interpellation de Jésus est là pour nous amener à réfléchir, chacun d'entre nous, et à nous interroger, Seigneur, ai-je l'humilité suffisante pour reconnaître que je fais trop souvent partie de ces sages et de ces intelligents? Et que je passe alors à côté de beaucoup de ces choses que tu tiens en réserve pour moi. Je m'appuie sur ma sagesse, sur mon intelligence, et je passe à côté de ce que tu as en réserve pour moi. Alors, si c'est le cas, c'est mon cas, je dois comprendre que les plus belles choses du royaume de Dieu ne sont pas pour moi. Tant que mon cœur ne revient pas comme celui d'un enfant, Dieu continuera de me les cacher. Dès lors, quel chemin dois-je prendre pour retrouver ce cœur d'enfant? Celui du dépouillement de toute ma sagesse, de toute mon intelligence, de tout mon savoir-faire, de tous mes calculs, de toute mon expérience, et de retrouver donc la simplicité, la foi simple d'un enfant auprès de son Père. L'apôtre Paul écrit lui-même dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 8, c'est un verset bien connu, et ce soir je pense qu'il peut prendre encore une autre dimension pour nous. Prenez le temps d'ouvrir la Bible, s'il vous plaît. Philippiens, chapitre 3, verset 7, comme ça vous pourrez marquer ce passage, vous ne l'oublierez pas, vous pourrez le reprendre pour le méditer. L'apôtre écrit donc, Philippiens 3, verset 7, « Je regarde tout cela comme une perte à cause de Jésus-Christ. » En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Christ. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et même, je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Et Paul, juste avant, explique quels étaient tous ces gains. Hébreux, né d'Hébreux, de la tribu de Benjamin, circoncis le huitième jour, de la secte la plus zélée, celle des pharisiens. Et aux yeux des juifs, c'était là un gain. Mais il nous fait comprendre que ce que nous pensons être un gain est en fait une perte. Parce que mes gains m'empêchent de gagner Christ. Ces gains sont ma force humaine, psychique, émotionnelle, matérielle. Ce sont mes ressources, ce qui m'appartient, ce que j'ai reçu, ce qui est à moi et qui n'est pas aux autres, ce qui fait ma différence, ce qui peut faire ma supériorité. Mais Paul nous dit que tous ces gains encombrent ma vie, encombrent mon âme et surtout me ferment le ciel. Car tant que je me confie dans ces gains, et vous avez compris que ces gains ne sont pas, ça n'a rien à voir avec le péché, ça n'a rien à voir avec des choses mauvaises. Pour Paul, c'était des choses pleines d'honneur, hébreux, nés d'hébreux. Fils de la tribu de Benjamin, etc., etc. Mais, tant que je me confie dans ces gains, Dieu gardera cachées les choses qu'il tient en réserve pour moi. En me disant malgré tout qu'elles sont pour moi. Qu'elles me sont acquises. Qu'elles me sont réservées, qu'elles ne sont pas pour quelqu'un d'autre, elles sont pour moi. Mais ce qui est dommage, c'est que je suis tellement encombré dans ma vie que je n'ai même plus de place pour aller les chercher. Alors l'apôtre disait, et je voudrais dire comme lui, moi aussi, je préfère donc perdre mes gains et être capable de pouvoir les considérer comme lui, comme des ordures. Vous rendez compte de ce qu'il a dit ? Je vais vous dire, aujourd'hui dans notre contexte, vraiment dire ce qu'il vient de dire, beaucoup de gens ne le supporteraient pas. Il dit, hébreu, né d'hébreu, je prends le texte, hein. Il dit, pour moi, finalement, c'est une perte, c'est une ordure. C'est ce qu'il dit. Relisez le texte, c'est ce qu'il dit. Non pas qu'il dénigre sa généalogie, mais ce qu'il ne veut pas, c'est se confier dans cette généalogie. Vous comprenez ? C'est comme si je disais pasteur, fils de pasteur et petit-fils de pasteur. Ce qui est la vérité. Ce qui est l'histoire de ma famille. Mais si je me confiais dans cela pour exercer mon ministère, ça serait une perte. Et dans cette approche-là, je préfère le considérer comme un détritus. Parce que ce qui est important pour moi, ce n'est pas d'être fils de pasteur et petit-fils de pasteur, mais c'est la connaissance de Christ. Comme pour Paul, l'important, ce n'était pas être hébreu, fils d'hébreu, fils de la tribu de Benjamin, membre des pharisiens, mais ce qui était important, c'était la connaissance de Christ. Et donc, il était prêt à tout perdre, à tout laisser de côté, jusqu'à dire tout ça, c'est des détritus. Mais oui, si on le compare à la gloire du Seigneur. Je ne sais pas ce qui est un gain ou une perte pour vous. Es-tu prêt à considérer les gains de ta vie comme des pertes, voire comme des ordures, des détritus, parce qu'ils t'empêchent de gagner le royaume de Dieu, parce qu'ils t'empêchent d'accéder à tout ce que le Seigneur a préparé pour toi? Mais si tu es prêt à dire, Seigneur, je veux me débarrasser de tout cela, ça ne veut pas dire que je renie. Paul n'a jamais renié son identité juive, mais il ne s'est pas confié en elle. Il ne l'a pas cultivée. Il n'a pas cherché à la développer. Il a cherché à développer sa relation avec Jésus-Christ. Et il a dit au contraire, comme moi je veux dire aussi, Seigneur, ce soir, je veux que mon âme soit libre. Libre de tout encombrement et que je puisse être accessible au Saint-Esprit. Je veux être libre de tout ce que je crois faire la richesse de ma vie. Mais s'il y a quelque chose que je considère comme ayant plus de valeur que la connaissance de Christ, le ciel se ferme. Voilà donc, parmi ces points, ce que je voulais voir avec vous ce soir, et vous dire que Dieu a en réserve pour vous dans les cieux, pour chacun d'entre nous, des choses qu'il a cachées en Jésus-Christ et qu'il est prêt à nous révéler si nous venons vers lui avec un esprit libre et avec un cœur d'enfant. Si nous regardons tout comme une perte, parce que nous recherchons la perle de grand prix. Le Seigneur a en réserve pour nous des bénédictions, parce qu'il nous aime. Et aussi, vous savez, je crois que Dieu veut nous bénir. Il veut nous amener à vivre ces bénédictions, parce que c'est un moyen aussi d'exercer notre foi. Aller chercher les bénédictions de Dieu, c'est exercer notre foi, afin d'être plus efficace après dans son service. Je crois qu'une personne que Dieu bénit, qui sait aller chercher les bénédictions de Dieu, va être donc une personne aussi qui est efficace, parce qu'elle est habituée à connaître les mécanismes divins. Et puis, il y a aussi ce que Dieu a préparé d'avance, des œuvres préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il y a dans le ciel toutes les réponses, toutes les solutions, toutes les ressources à toutes les recherches des hommes. Il y a d'abord le salut, il s'appelle Jésus-Christ. il y a la promesse de la vie éternelle pour ceux qui se confient en lui. Mais aussi parce que Dieu est créateur et qu'il donne la vie. Il y a dans le ciel des découvertes scientifiques, des découvertes médicales, des avancées technologiques. Vous croyez que j'ai vais trop loin? N'est-ce pas la Bible qui fut le premier livre imprimé? Et n'est-ce pas grâce à l'invention de l'imprimerie que l'évangélisation a atteint un autre niveau? Il y a des livres, des musiques, il y a des idées d'entreprise, il y a même des projets de loi que Dieu tient en réserve pour ses enfants. Et son désir, ce n'est pas de les donner aux gens du monde. Ce qui est triste, par contre, c'est quand il donne ces choses à des enfants qui vont le perdre dans le monde. Ça, c'est terrible. Mais ça, ce sont des choses qui sont réelles, qui sont cachées en Christ et que Dieu veut nous accorder. Mais ce ne sont pas des choses qui sont montées au cœur de l'homme, des choses que l'œil a vues, des choses que l'oreille a entendues. Mais comme le dit l'apôtre Paul, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime et il nous les a révélées par son esprit. Ce n'est pas par notre sagesse et notre intelligence que nous les trouverons, mais c'est par un esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. Mes frères et sœurs, je finis comme cela. Je vous ai parlé il y a quelques semaines et Dieu a continué à parler à mon cœur et vraiment il m'attache à développer, à méditer ces choses parce que pour plusieurs raisons, elles sont vraiment pour moi une clé prophétique concernant cette année. Tout a commencé par un message qui a été apporté à Noël dans l'église de Bordeaux par le pasteur Patrick Berthelon et ne savait pas comment Dieu allait, à travers ce message, commencer à parler à mon cœur. Et il parlait pour cette année des choses nouvelles que Dieu voulait faire. Et puis Dieu m'a ouvert des textes à partir de là. Il m'a montré ces textes, Ésaïe 48, 6, Jérémie 33, et les prophètes ont les mêmes mots. Ils parlent de choses cachées, nouvelles, inconnues et grandes. Voyez-vous? Et ces choses-là ne sont pas pour les sages et les intelligents. Elles sont pour ceux qui ont un cœur d'enfant. Et Dieu veut nous les révéler. Et il existe donc deux voies pour chaque chrétien. Et c'est ce que le Seigneur me montre pour ma vie, comme pour le ministère, comme pour l'Église. Je peux continuer à marcher dans la voie de la sagesse et de l'intelligence. Et c'est une voie où Dieu nous accompagne. Et puis il me dit, tu vois, il y a un autre chemin. Un chemin de révélation. Et sur ce chemin, dans ce chemin, il y a des choses cachées, nouvelles, inconnues et grandes. Et j'ai envie de marcher sur ce chemin. Je n'ai pas simplement envie de marcher par sagesse et intelligence, mais j'ai envie de marcher par révélation dans sa connaissance. Des choses cachées que Dieu veut nous révéler. Des choses nouvelles et donc inconnues. Et l'inconnu fait peur. Et parce que l'inconnu fait peur, on préfère rester dans la voie de la sagesse et de l'intelligence. Mais lorsque il y a l'inconnu, Jésus est encore là pour nous dire, rassurez-vous, c'est moi. Et ces choses qu'il tient en réserve sont de grandes choses. Et pour y accéder, il nous faut tout laisser de côté et demander à Dieu un cœur simple, capable d'entretenir une communion avec le Saint-Esprit afin de recevoir ses communications. Nous parlerons de cela dans quelques jours, le dimanche. Alléluia. Ce soir, est-ce que quelqu'un voudrait se lever devant le Seigneur en disant, « Mon Dieu, je voudrais que tu changes mon cœur parce que cette année, je veux vivre quelque chose d'autre. » Je ne veux pas vivre selon la voix des adultes, selon la voix des sages et des intelligents. Mais Seigneur, je voudrais vivre selon la voie des enfants. Je voudrais, Seigneur, te demander un esprit de révélation dans ta connaissance. Parce que je voudrais, Seigneur, accéder à des choses nouvelles, inconnues, caché, mais que tu tiens en réserve pour moi. Je voudrais, Seigneur, que tu commences à produire une excitation dans mon cœur, un intérêt dans mon cœur, à activer, Seigneur, de nouvelles connaissances, à amener, Seigneur, une nouvelle puissance dans ma vie. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, illumine les yeux de notre cœur. Ouvre les cieux devant nous, comme tu as ouvert les cieux devant le serviteur d'Élisée, et que nous puissions contempler cette gloire qui est là, qui nous entoure en permanence. Mais trop souvent, nous avons les yeux fermés sur ces choses pour ne voir que les ennemis qui nous entourent. Alors, Seigneur, nous essayons de trouver la voie de la sagesse et de l'intelligence pour essayer de nous frayer un chemin à travers ces ennemis. Quand tu nous dis que tu veux nous donner un esprit de révélation dans ta connaissance pour avoir une nouvelle vision des choses. Et Seigneur, ça, je crois que c'est l'essence même de la vie chrétienne. Et c'est cette dimension que nous voulons dans cette année. Je le veux pour ma vie, pour ma famille. Je le veux pour mon ministère, en te demandant, Seigneur, une autre dimension dans la prédication, une autre dimension dans ma vie de prière, une autre dimension dans la vie de l'esprit. Je le veux, Seigneur, pour cette église, en te demandant, mon Dieu, de commencer à nous révéler les choses qui sont cachées pour cette assemblée, pour le ministère de cette assemblée, à nous montrer des voies nouvelles, mon Dieu. Et je le veux pour mes frères et sœurs, afin que nous devenions puissants, Jésus-Christ. Nous avons la parole, nous avons été enseignés, nous avons reçu ce message et nous croyons que ces enseignements sont la parole de Dieu, sont la doctrine de Dieu. Mais maintenant, nous te demandons d'activer tout cela, de rendre opérant tout cela, par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, descends sur nous dans cette année et viens, Seigneur, ouvrir le ciel. Mais bien plus, viens ouvrir nos cieux, viens ouvrir notre intelligence, viens ouvrir notre cœur, viens nous amener à nous dégager, à nous libérer de tout ce qui peut encombrer notre vie. Seigneur, je voudrais que tu me montres tous ces gains qui sont en nous, qui sont en moi et qui sont autant d'empêchements. Et de m'amener, Seigneur, dans une prise de conscience, dans un esprit de repentance, à ne pas me confier dans cela, et être capable même de les regarder comme une perte, comme des ordures, comme Paul l'écrit, afin de gagner Christ. Œuvre en nous, Seigneur. Œuvre en nous, Jésus-Christ, mon Dieu. Œuvre en nous, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dans cette année, nous voulons quelque chose de nouveau. Amen, amen et amen.